18h-20h,
votre grand journal du soir,
Thierry Dagiral.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, ravi de vous retrouver tout le mois de juillet, tous les soirs de 18h à 20h avec toute la rédaction bien sûr mobilisée pour vous informer tout l'été. Et particulièrement ce soir, va-t-on connaître le gouvernement dans les prochaines minutes, dans la soirée, demain matin? Pourquoi cela prend visiblement plus de temps que prévu? Le point complet dans votre journal, Sébastien Krebs, dans un instant. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
18h20, les dossiers qui attendent le nouveau gouvernement, notamment la rentrée sociale agitée, mais aussi la réforme des retraites. Est-ce nécessaire de remettre les sujets qui fâchent sur la table? Je poserai la question au secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. 18h30, les grandes voix, avec dans les coulisses, bien sûr, de ce remaniement, Laetitia Krupa, Marie-Ève Malouin et Mickaël Darmon. Et bien sûr, vos questions, 39-21, je compte sur vous. Et puis notez bien, dès 19h30, si la France ne connaît pas d'ici là son nouveau gouvernement, eh bien place à la culture qui doit se réinventer cet été. Puis nous partirons à l'assaut de nos régions, de nos belles régions que l'on va redécouvrir cet été. Des balades, des endroits secrets, mais aussi les producteurs locaux, nos restaurateurs. Première étape ce soir dans le Var, autour de Toulon. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Anissa qui m'accompagne avec plaisir. C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changer. Et c'est jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est le jour le plus long dans les coulisses du pouvoir. La composition du nouveau gouvernement n'est donc toujours pas officialisée, mais cela semble imminent. On va évidemment suivre à tout moment en direct.
Alors pourquoi ça traîne? Quels équilibres politiques faut-il fixer? Les réponses de nos éditorialistes.
Les chauffeurs de bus de Bayonne atterrés. L'un de leurs collègues a été roué de coups pour avoir refusé un groupe de passagers sans ticket et sans masque.
Le chauffeur n'a juste fait que son travail. Moi je suis anéanti. J'ai vraiment une pensée pour son épouse et ses trois enfants.
Dans ce journal également, le coronavirus peut-il voyager dans l'air? Certains scientifiques le pensent.
Et puis quelques notes suffisent. Vous y êtes? Nous voici dans l'univers des plus grands westerns, le bon, la brute et le truand. Il était une fois dans l'Ouest. Le compositeur Ennio Morricone est mort à 91 ans. La bourse de Paris commence la semaine sur un rebond de 1,49% à 5081 points.
Pardon. La tendance météo, Anissa.
Avec une très belle journée d'été demain, vous verrez que le soleil sera bien plus généreux qu'aujourd'hui. Mais attention, les températures restent toujours assez fraîches sur la moitié nord. Et puis, avant 19h, nous irons faire également un tour du côté des plages pour aller bien prendre évidemment la température de l'eau et sur le sable également.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et Sébastien Krebs.
L'Elysée promettait de grosses surprises. Eh bien voici donc le suspense qui s'éternise. Toujours pas de fumée blanche, toujours pas de gouvernement à l'heure où nous parlons. C'est toute la vie politique qui est suspendue aux annonces qui vont venir du perron de l'Elysée. Vous n'en êtes pas très loin, Adrien Beck. Est-ce que les choses se dessinent? Est-ce que c'est cette fois imminent?
Alors, en tout cas, visuellement, la cour de l'Elysée n'a plus son apparence calme et vide qu'elle avait ce matin. Un micro est à présent installé sur le perron. C'est là qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, va égrener les noms de la vingtaine de nouveaux ministres. Un remaniement annoncé pour aujourd'hui, mais qui finalement s'étire un peu. À la mi-journée, Jean Castex a déjeuné avec Emmanuel Macron, ici à l'Elysée, signe que tout n'était pas encore bouclé, de l'aveu même d'un proche du chef de l'État. Ce matin encore, plusieurs ministres n'étaient d'ailleurs pas fixés sur leur sort. Un remaniement qui prend du temps, on pouvait s'y attendre, sourit un parlementaire. C'est vrai que pour remplacer Gérard Collomb ou Nicolas Hulot, le président avait pris son temps. Et cette fois, ce ne sont pas un ou deux ministres qu'il faut remplacer, mais bien une équipe au complet à trouver.
Adrien Beck en direct de l'Elysée. Évidemment, vous nous rappelez dès que le secrétaire général du palais apparaît sur le perron, on suivra les annonces en direct.
Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Que sait-on ce soir Jean-Rémy de ce qui se passe en coulisses?
Eh bien des longues heures de tractation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'affichage aujourd'hui. Après le déjeuner à l'Elysée dont parlait à l'instant Adrien Beck, Jean Castex a fait le tour des présidents des trois assemblées, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental. Et au-delà de ce que vous avez vu à la télévision, il y a ce qui se passe effectivement en coulisses, notamment à l'Elysée. Emmanuel Macron, son entourage très proche, à la manœuvre, avec une espèce de puzzle absolument incroyable autour de plusieurs ingrédients. L'équilibre géographique de représentation de ce gouvernement, il faut que ça représente à peu près toutes les régions de la France. L'équilibre politique, le MoDem, agir tous les amis et partenaires politiques de la majorité. La question de la parité, il faut que ce soit égal. Une certaine dose de diversité, ça fait partie des objectifs qu'Emmanuel Macron avait demandé. Et à chaque fois qu'une tête change, qu'un ministres poussent pour avoir tel ou tel portefeuille, qu'un arbitrage est rendu. Eh bien, il faut le revoir, tout le dispositif. Toute la journée, des noms ont circulé. Alors, c'est pas forcément utile de faire le jeu des devinettes. La liste, elle doit être annoncée d'ici quelques minutes. Mais vous disiez tout à l'heure, Sébastien, qu'on aura peut-être de grosses surprises. Pour l'instant, on va pas vous mentir. Les noms qui nous parviennent ne sont pas particulièrement si audacieux, mais peut-être il reste quelques minutes.
Jean-Rémy Baudeau, vous restez avec nous, bien sûr, jusqu'à 20h. On commentera ensemble ce nouveau gouvernement lorsque le maître des horloges l'aura décidé, donc.
Et Mickaël Darmon nous a rejoint. Bonsoir, Mickaël.
Bonsoir.
On sait ce qui bloque. Il y a des points en particulier.
D'abord, ce qui est un rituel dans les remaniements, c'est le blocage. Il y a toujours des rapports de force, parce qu'à partir du moment où on commence à composer l'équipe, eh bien, il y a des différents intérêts qui s'opposent. Le point de blocage principal qui a au fond organisé toute la journée, même le cœur du dîner hier soir, c'est tout simplement, c'était la bagarre entre Gérald Darmanin et donc Olivier Véran, tout simplement parce que le projet initial était que les retraites, les affaires sociales passent sous la houlette de Gérald Darmanin, qui pourra récupérer un grand ministère, donc travail. Affaires sociales. Sauf que voilà, Olivier Véran ne veut pas, n'a pas voulu, et l'arbitrage ce matin apparemment lui a donné raison. D'où donc une nouvelle tension, puisque en compensation, eh bien, Gérald Darmanin dit, puisqu'on sait qu'il veut peser politiquement, exige un ministère régalien, en particulier celui de l'intérieur, et c'est là où ça coince encore, puisqu'on sait que ça a toujours été une place sensible, et qu'il y a cette tension-là. On prête, d'après ce que l'on comprend en coulisses, l'intention donc au président de la République de dire que c'est plutôt, ce serait plutôt donc Monsieur Blanquer qui irait donc place Beauvau, alors que Jean Castex pousse plutôt la solution donc Darmanin ministre de l'Intérieur. Tant que ce problème n'est pas réglé, eh bien le gouvernement ne sera pas annoncé, parce que toutes les chaises musicales dépendent de la manière dont ce blocage sera levé.
Merci, Mickaël Darmon.
Bien sûr, on va tout suivre en direct sur Europe 1 dès l'annonce du nouveau gouvernement. Commentaire politique, première réaction. Mickaël, vous serez avec nous, aux côtés des grandes voix, bien sûr, dès 18h30.
Et la suite du calendrier, c'est donc le premier Conseil des ministres prévu mercredi matin. Et puis mardi prochain, la prise de parole d'Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet. Et dans la foulée, la semaine prochaine, toujours le discours de politique générale du Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale.
Il est 18h06, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Thierry Dagiral.
Le choc à Bayonne, les conducteurs de bus de la ville ont exercé leur droit de retrait aujourd'hui. L'un de leurs collègues est en état de mort cérébrale après une très violente agression, Sébastien.
Ça s'est passé hier soir lorsqu'il a refusé de laisser entrer un groupe de passagers sans titre de transport et sans masque. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant dans la région. Un suspect a été arrêté aujourd'hui.
Oui, il y a quelques minutes, une source proche de l'enquête m'a confirmé qu'en plus de ce trentenaire, quatre autres personnes sont toujours en garde à vue dans le cadre de cette enquête. L'agression a eu lieu, vous le disiez, hier soir. Les investigations doivent encore en préciser le déroulement, mais ce chauffeur de trambus aurait effectivement refusé à un homme l'accès au véhicule parce qu'il ne portait pas de masque. À cet arrêt, il y aurait eu aussi un différend avec quatre autres passagers devant descendre du bus pour la même raison et pour une absence de titre de transport, de ticket. Roué de coups, le conducteur, âgé de 59 ans, a été transporté dans un état très grave au centre hospitalier de la Côte Basque. Maire d'Anglet, Claude Olive, préside le syndicat des mobilités Pays Basque à Dour.
Le chauffeur a juste fait que son travail par rapport au respect notamment et des règles sanitaires, mais aussi d'un règlement de ticket de bus, un ticket de tram qui n'avait pas été honoré. Tout le monde est sous le choc. Bien sûr, moi j'ai une pensée, parce que c'est quelqu'un que je connaissais personnellement, c'était un ami, un copain de jeunesse, et donc j'ai une pensée pour Véronique, sa femme, et puis pour ses trois filles et toute sa famille. Tout le monde connaissait Philippe, tout le monde adorait Philippe, parce que c'était d'abord quelqu'un qui avait un passé dans cette entreprise, puisqu'il était là depuis 31 ou 32 ans, je crois. Et donc il se faisait une joie de dire, je m'en vais à la retraite l'année prochaine, je vais prendre mon camping-car avec mon épouse, on va les profiter un peu. Moi je suis anéanti, j'ai vraiment une pensée pour son épouse et ses trois enfants.
Les collègues de ce conducteur de bus de Bayonne ont manifesté aujourd'hui leur tristesse, leur indignation. Le réseau de bus dans l'agglomération de Bayonne-Biarritz-Anglet pourrait d'ailleurs connaître des perturbations encore ces prochains jours.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en région Nouvelle-Aquitaine.
Et puis l'enquête avance également à Agen après la mort d'une jeune gendarme tuée samedi soir par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier.
L'homme de 26 ans qui était au volant et qui a été arrêté roulait sans permis à plus de 130 km/h et détenait de la cocaïne. Le Conseil d'État a rétabli aujourd'hui la liberté de manifester sans autorisation. Cette nouvelle procédure avait été imposée par un décret pris le 14 juin. Il était largement contesté par les associations, les syndicats. On revient donc aux règles précédentes, une manifestation doit simplement être déclarée. En revanche, le Conseil d'État maintient l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
À suivre dans votre journal de 18h, le coronavirus peut-il voyager dans l'air? C'est ce que pensent en tout cas des scientifiques, ils alertent l'OMS.
Et puis des airs de cinéma qu'on connaît tous. Vous avez reconnu le professionnel. On rendra hommage à Ennio Morricone.
Europe 1.
10h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
Et nous en venons à cette alerte venue de plusieurs centaines de scientifiques du monde entier. Ils estiment, Sébastien, que le coronavirus peut aussi voyager dans l'air.
C'est le New York Times qui relaye leur lettre adressée à l'OMS à travers le monde. Ces scientifiques ont tous la même conclusion. On parlait jusque-là de postillons, Mathieu Charrier. En fait, l'air pourrait aussi transporter le virus.
Oui, d'abord, quand vous dites on parlait jusque-là de postillons, c'est parce que la position de l'OMS, toujours d'actualité d'ailleurs, c'est que le virus se transmet par grosses gouttelettes. Lorsque l'on éternue, par exemple, et que l'on projette ces gouttelettes, si quelqu'un se trouve en face et trop proche de vous, il peut être contaminé. Mais ces grosses gouttelettes, une fois expulsées, elles tombent rapidement au sol, d'où les recommandations de garder plus d'un mètre entre chaque personne. Le problème, c'est que ces 239 chercheurs issus de 32 pays, eh bien, ils vont plus loin, puisque selon eux, la Covid-19 pourrait aussi se transmettre par des micro-gouttelettes qui seraient en mesure de flotter, en quelque sorte, dans l'air, d'y rester. C'est pour ça que vous dites que l'air pourrait transporter le virus, et donc contaminer des personnes à une distance beaucoup plus grande qu'un mètre, explique Alexandre Bleptreux, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Ce que ça veut dire, c'est effectivement quand on est dans des endroits clos, mal aérés, si tant est qu'il y a une climatisation ou un système de renouvellement d'air sans filtre, ça peut permettre à des micro-gouttelettes ou des micro-particules virales de persister quelques instants dans l'air.
Et ces chercheurs demandent donc à l'OMS de revoir ses positions, mais aussi et surtout d'appliquer le principe de précaution, à savoir obliger le port du masque dans les espaces clos et mettre en place un système de ventilation adapté. L'OMS qui a déjà répondu parlant de fort débat à ce sujet, mais certainement pas étayé par des preuves solides ou même claires.
Mathieu Charrier du service Société d'Europe 1, le virus qui continue de progresser de façon préoccupante aux États-Unis. Pendant que New York avance prudemment dans son déconfinement, l'inquiétude est bien plus vive dans les États du Sud et de l'Ouest. 40 000 nouvelles infections en 24 heures, pendant que Donald Trump, lui, continue d'affirmer que l'épidémie est sur le point de s'achever.
À Paris, Sébastien, aujourd'hui, un symbole de la vie culturelle qui reprend, le musée du Louvre, a rouvert ses portes.
Ouais, sous les applaudissements, ce matin, devant la pyramide, mais sans la foule habituelle, hein, faute de touristes. Habituellement, les trois quarts des visiteurs sont étrangers. L'occasion donc de revoir la Joconde sans faire la queue.
Et puis comment ne pas finir ce journal sans un air de western, bien sûr.
L'harmonica d'Il était une fois dans l'Ouest, mais aussi Le bon, la brute et le truand pour une poignée de dollars, Le clan des Siciliens ou encore Le professionnel qu'on entendait tout à l'heure. Qu'auraient été ces films de légende sans leur bande originale? C'est un monument de la musique qui s'est éteint. Le compositeur italien Ennio Morricone est mort à 91 ans, compagnon de route de Sergio Leone et jusqu'à Quentin Tarantino plus récemment. Ces airs, tous les cinéphiles les connaissent, et vous l'avez vérifié à Toulouse, Benjamin Péter.
Oui, parce que parfois, sans le savoir, on a tous une ritournelle signée Ennio Morricone dans la tête. Ces cinq notes du Bon, la brute et le truand, par exemple.
Ah, mais il y a du voilà, il nous a appris à siffler, quoi.
Hum, 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 hum. Il a inventé un truc avec ses voix, avec ses sons. On se souvient tous des BO des films de Sergio Leone.
Des BO d'Ennio Morricone, Jean, qui est disquaire, en vend très régulièrement. Il a pu constater que bien souvent, son nom est resté dans les mémoires bien plus que celui des réalisateurs.
Tous ses travaux sont recherchés. C'est le seul compositeur de films. On demande des films d'Ennio Morricone. Il n'est pas réalisateur, mais voilà, les gens cherchent la musique. D'accord. Par exemple, le film Mission, le fait que ce soit Roland Joffé, tout le monde s'en fout. Tout le monde nous demande le film Mission d'Ennio Morricone pour la chanson titre qui est magnifique.
Et c'est vrai qu'elle est envoûtante, cette musique de Mission. C'est d'ailleurs ce que retiennent les gens, les émotions que procure ces airs et qui touchent toutes les générations.
C'était juste un compositeur fabuleux. Ça me rappelle ma nièce qui avait à peine, je crois, 4 ans. Et j'ai fait écouter du Morricone et elle s'est mise à chialer. Même un enfant qui connaissait rien à la musique, les émotions étaient là.
Un compositeur de génie qui savait réconcilier les mélomanes les plus exigeants avec la culture populaire.
De Benjamin Péter à Toulouse. Monica Bellucci dit d'Ennio Morricone qu'il avait la capacité de rendre le monde meilleur en créant de la beauté.
Immense bonhomme. Merci, merci. C'était le journal de Sébastien Krebs. Je le rappelle des titres à 18h30. Et puis notez que l'Élysée annonce le remaniement pour 19h.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Anissa, la météo demain, ça donne quoi?
Eh ben, ça donne une très belle journée estivale. On range le parapluie au fond du placard et on n'oublie pas les lunettes de soleil dans le sac demain, c'est obligatoire. Avec tout de même encore sur la moitié nord demain matin, quelques petits passages nuageux. Sur la moitié sud, il fait toujours très beau dès le lever du jour demain. Avec attention, toujours au bord de la Méditerranée, sous le soleil, le vent qui souffle, le Mistral et la Tramontane qui souffle depuis plusieurs jours maintenant, jusqu'à 80 km/h en rafale. Alors le vent va faiblir demain, mais ça fait nettement baisser la température de la Méditerranée. D'ailleurs, on ira faire le tour des plages tout à l'heure.
19 degrés, c'est ça, hein ?
19 degrés l'eau. Aujourd'hui, elle était à 19 degrés hier, avec une plage à 36 degrés. Donc, il y a vraiment un gros différentiel. Les températures, elles sont fraîches dans le nord-est demain matin, avec 4 à 6 degrés, jusqu'à 23 au bord de la Méditerranée, avec Nice demain matin. Et puis, demain après-midi, il fait toujours frais dans le nord-ouest, avec seulement 18 degrés à Cherbourg, 20 à Dunkerque et au Havre, 22 à La Rochelle, 23 à Lille et Biarritz. Et partout ailleurs, ça commence à devenir très agréable. 25 à Clermont-Ferrand, Strasbourg et Paris, 27 à Bordeaux, 29 à Nice, 30 à Carcassonne et jusqu'à 34 degrés pour Nîmes et le Vigan demain après-midi.
Merci.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous Thierry Dagiral et avec votre invité dans un instant.
Et alors qu'on attend dans trois quarts d'heure maintenant la nomination de ce nouveau gouvernement, on connaît déjà les grandes lignes tracées par Jean Castex, avec notamment la réforme des retraites et ce besoin de réconciliation. Le patron des communistes, Fabien Roussel, est mon invité sur Europe 1 dans deux minutes.
Votre grand journal du soir se poursuit, Thierry Dagiral, et à 18h20, votre invité ce soir est Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF et député du Nord.
Bonsoir Fabien Roussel.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1, je disais, à trois quarts d'heure maintenant de l'annonce de ce nouveau gouvernement. Jean Castex, dans le JDD ce week-end, affichait cette volonté de tendre la main, de réconciliation avec les syndicats, avec les opposants. C'est ce que vous attendez, vous aussi ?
Écoutez, oui, on a vraiment besoin d'avoir un homme de dialogue et un Premier ministre qui sera engagé un dialogue, mais un vrai dialogue et surtout de vraies négociations, c'est-à-dire sans imposer une réforme comme ce fut le cas auparavant avec la réforme des retraites ou celle de l'assurance chômage. Ouais. C'est-à-dire que nous voulons plus qu'un dialogue, nous voulons avoir la possibilité de pouvoir débattre des différents leviers à mettre en œuvre pour avoir une retraite juste, par exemple, ou pour empêcher de mettre en œuvre des plans sociaux comme ceux qui tombent en ce moment. Mmh. Quelles conditions nous pouvons mettre pour l'attribution d'argent public aux grandes entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui n'empêche pas du tout les plans sociaux. On a donc besoin, plus que d'un dialogue, de pouvoir avoir un lieu de discussion et de négociation.
Laurent Berger de la CFDT a dit ce matin qu'il y avait une sorte de maltraitance des organisations syndicales de l'opposition sous Édouard Philippe. Vous avez ressenti cela, vous, ou pas ?
Alors, je viens de vous dire, là, sur la réforme des retraites, par exemple, il y a eu le sentiment d'une réforme vraiment imposée, à marche forcée, sans possibilité de négocier, de discuter. Il fallait allonger l'âge de départ en retraite, point barre. Il n'y avait pas d'autre alternative. En revanche, je reconnais quand même à Édouard Philippe la sincérité de son discours et le fait qu'il annonçait la couleur et il ne changeait pas en cours de route. Au moins, on savait où on allait. C'est aussi ce que j'attends de ce gouvernement et de ce Premier ministre, c'est qu'il n'y ait pas de double langage et que l'on sache véritablement là où il veut aller. Ensuite, d'accord, pas d'accord, puis on discute. Mais on a besoin aujourd'hui de sincérité en politique, pas de coup bas, pas un coup je dis blanc, un coup je dis noir, mais une parole sincère. Il y a besoin d'une parole sincère en politique.
Il y a cet enracinement local, plus on agit près du terrain, plus on est efficace, dit Jean Castex. Vous qui êtes élu du Nord, c'est une nécessité aujourd'hui ?
Oui, on est reconnus, les gens du Nord, pour avoir les pieds dans la glaise et donc d'être proche des réalités du terrain. Mais je crois que c'est le cas aussi de ceux du Sud. Et vous savez, pour nous, dans le Nord, tout ce qui est en dessous de Paris, c'est le Sud. Donc je crois que Jean Castex doit, j'espère, qu'il va rester donc cet élu qui a les pieds dans la glaise. Et donc il saura prendre en compte ce qui se passe dans le pays et donc les grandes inquiétudes, voire les colères qui s'expriment, notamment celles du monde du travail, parce que les plans sociaux, je reparle de ceux-là, qui tombent en ce moment, je pense à Sanofi, je pense à Airbus, que j'ai rencontré, ce sont des salariés qui ne comprennent pas ce qui se passe parce que leurs entreprises ont gagné beaucoup d'argent, elles en reçoivent beaucoup de l'État et il n'y a aucune raison de licencier. Au contraire, elles doivent faire face à de gros enjeux dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'aérien et il y a besoin au contraire d'investir beaucoup, de former, de faire de la recherche. Donc j'espère que cette réalité du terrain, il va l'entendre, surtout donc de la part du monde du travail. C'est pour ça que le lien avec les syndicats ou les partis de l'opposition sont importants.
On va connaître le nouveau locataire de Bercy dans une grosse demi-heure maintenant. Vous lui dites quoi à ce futur locataire de Bercy ?
Bon, je pense que vouloir faire le nouveau monde avec l'ancien monde, c'est un véritable casse-tête, pour faire le jeu de mots.
Ouais.
Et effectivement, quand j'entends parler de possibles nominations de Bachelot, Cohn-Bendit ou Nicole Notta, je me dis qu'il va avoir du mal de faire le nouveau monde avec l'ancien monde. Maintenant, c'est à lui de composer son équipe. Encore une fois, nous, ce qui compte, c'est pas l'homme ou les femmes qu'il va nommer, mais c'est les choix politiques qu'ils vont faire. La grande question que nous nous posons, beaucoup, nombreux, c'est est-ce qu'il va y avoir un tournant ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle politique, un nouveau cap ? Et est-ce qu'il va y avoir un tournant social et écologique qui est tant attendu dans notre pays, qui vient de s'exprimer lors de ce second tour des élections municipales ? Nous voulons plus de justice sociale et de solidarité. Nous voulons une politique écologique qui nous fasse prendre un virage, un tournant important, indispensable pour notre pays et pour la planète. Est-ce que ce tournant-là, est-ce que ce nouveau cap va être marqué tout de suite ? C'est ça qui est important. C'est moins les hommes et les femmes, mais c'est la ligne politique qui va être donnée. Et nous attendons, nous, vraiment ça avec impatience.
Fabien Roussel, l'autre point important, bien sûr, c'est le Ségur de la Santé. Il faudra se souvenir de ceux qui ont été, pendant ces 2-3 mois, en première ligne, en France.
Oh que oui, parce que là aussi, pendant des mois, les soignants, leurs représentants syndicaux, médecins, infirmières, tous ont manifesté pendant des mois et des mois avant la pandémie, ils n'ont jamais été entendus. Donc vous voyez que cette exigence de dialogue et aussi d'écoute est réelle. Il faut aujourd'hui qu'ils soient enfin entendus et qu'on arrive à obtenir plus que les 6 milliards et demi qui ont été accordés et qui ne vont même pas permettre de mettre en œuvre les hausses de salaire attendues par tous les personnels. Il y a besoin là de mettre les bouchées doubles dans ce domaine. J'entends que le président de la République entend remettre une médaille aux infirmières. Franchement, c'est pas ça ce qu'elles attendent. Qu'ils remettent la médaille aux actionnaires, mais qu'ils versent les dividendes aux infirmières.
Par contre,
ça aurait du sens.
Dernier point sur lequel je désire vous entendre, Fabien Roussel, très rapidement. Jean Castex s'est montré en soutien direct avec les forces de l'ordre ce week-end. Il a visité un commissariat de la Courneuve. Il parle d'autorité. C'est un signal fort dans cette période où on le sait, hein, les forces de l'ordre sont critiquées.
Mais c'est pas les forces de l'ordre ne sont pas critiquées en tant que telles. Il y a eu des problèmes et des violences policières et une gestion des manifestations du maintien de l'ordre qui a été la gestion du maintien de l'ordre a été catastrophique. Il y a eu des violences policières, le gouvernement n'a pas voulu le reconnaître ou à demi-mot. Et donc il y a besoin aujourd'hui de s'y attaquer et de faire en sorte que les citoyens, les Français, retrouvent confiance dans leur police et dans toute leur police. Nous avons besoin de forces de l'ordre qui fassent en sorte que chacun ait droit à la tranquillité et à la sécurité dans notre pays. C'est un droit inaliénable. J'ai rendu hommage ce matin à cette gendarme qui a été tué ce week-end par une voiture qu'il pourchassait. Et donc, c'est dramatique. Ce sont eux aussi qui sont en première ligne. Et donc, oui, il y a besoin de retisser un vrai lien avec nos forces de l'ordre, de leur donner confiance, mais aussi de faire en sorte que les brebis galeuses qu'il y a dans les forces de l'ordre, il y en a partout, dans toutes les professions, mais ils ne doivent pas être protégés, ils doivent être sanctionnés. Et quand il y a des lanceurs d'alerte dans la police qui dénoncent des cas de racisme ou des cas de violence policière, eh bien, ces lanceurs d'alerte ne doivent pas être sanctionnés, ils doivent être eux aussi protégés.
Merci Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député du Nord, merci d'avoir été sur Europe 1 ce soir.
Je vous en prie, au revoir.
Europe 1. Votre grand journal du soir à suivre, Thierry Dagiral.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix, Laetitia Krupa, Marie-Ève Malouine et Mickaël Darmon dans les coulisses de ce remaniement imminent.
Europe 1.
Il est 10h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Et le rappel des titres de l'actualité ce soir, Sébastien Krebs.
La composition du nouveau gouvernement est fixée, elle sera annoncée dans une demi-heure maintenant sur le perron de l'Elysée, à suivre en direct sur Europe 1 avec l'analyse de nos éditorialistes et les premières réactions. Ce gouvernement qui comprendra une vingtaine de ministres, de nouveaux talents et des personnalités d'horizons différents, fait savoir l'entourage du chef de l'État. Premier conseil des ministres prévu mercredi. Dans le reste de l'actualité ce soir, le procès fleuve du scandale du Mediator a pris fin. Le jugement sera rendu le 29 mars 2021 pour les laboratoires Servier et l'agence du médicament. Le Conseil d'État rétablit le droit de manifester sans autorisation. Il suspend le décret qui avait instauré cette obligation au moment du déconfinement. Les bus de Bayonne à l'arrêt, les chauffeurs ont exercé leur droit de retrait après la très violente agression de l'un de leurs collègues. Il est en état de mort cérébrale. Hong Kong, le régime chinois durcit encore le ton. Le gouvernement exige le retrait de livres scolaires accusés de violer la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Et puis le musée du Louvre a rouvert ses portes à Paris après 4 mois et demi de fermeture. La Joconde est à nouveau visible, mais alors très loin de l'affluence habituelle. 7000 visiteurs aujourd'hui sur réservation au lieu de 30 000 par jour en temps normal.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Ah mais donc, j'entends des vagues. Ça c'est la météo des plages, c'est l'été.
Exactement.
On y est.
Ouais, on
Anissa,
y est.
Ça donne quoi? On commence à aller par le nord et la Manche.
Oui, exactement, avec toujours un air frais hein, et puis une eau froide. Écoutez bien, l'eau est à 17 degrés à Dunkerque. Demain, une eau à 16 degrés à Cherbourg. C'est vraiment très froid. Courageux à ceux qui peuvent y mettre un pied. Une eau à seulement 15 degrés à Perros-Guirec. Ah oui. Bon, la mer est belle et le vent est moins fort demain. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour.
Ça va, Fermi. On descend un peu la Bretagne, la côte atlantique.
Oui, de Lorient à Biarritz, l'eau est à 18 degrés à La Baule, avec un soleil par moments voilé dans l'après-midi, mais rien de très inquiétant. À Saint-Jean-de-Luz, l'eau est un petit peu plus chaude, 22 degrés, la mer est belle. Et à Mimizan, l'eau est à 21 degrés et de beaux rayons de soleil demain après-midi.
Et on termine, Anissa, par la Méditerranée et la Corse.
Et c'est là qu'il fera le meilleur pour aller à la plage demain. Il fait chaud sur les plages avec plus de 30 degrés, 32 à Marseille, 33 au Cap d'Agde, avec une eau fraîche, par contre, très fraîche, inhabituellement comme ça en Méditerranée.
C'est Mistral,
19 degrés
19
à cause
degrés,
du Mistral, ouais, effectivement. La mer est calme. En Corse, c'est parfait. Sur le sable, il fera 32 à Porto Vecchio et l'eau est à 24.
Merci Alissa.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral et on décortique toute l'actualité, l'actualité chaude aujourd'hui avec vos éditorialistes. Ce soir, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, Marie-Ève Malouine et Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1. Mais avec vous aussi en direct, les auditeurs, ça se passe au 39-21. N'hésitez pas à venir nous joindre et à nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On va rester sans doute un peu plus tard que prévu, vous savez, parce que l'Elysée annonce un remaniement pour 19h. Donc on va le commenter ensemble, le vivre ensemble si vous voulez bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi diantre cela prend autant de temps?
Marie-Ève Malouine. Il y a toujours des impondérables, des gens qui veulent un poste, qui...
Agir vite, disait Jean Castex.
Oui, bah, si on regarde, c'est assez rapide, c'est hein, pour un remaniement. Visiblement, là, tout est prêt, les patrimoines ont été vérifiés, il y a simplement une histoire de poste, et on entend parler un petit peu d'un différend ou d'une discussion sur le poste de ministre de l'Intérieur.
Ce que nous a expliqué Mickaël Darmon tout à l'heure dans le journal
voilà,
de 18h,
donc,
en effet.
Comme il l'a très bien dit, entre Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin, l'influence du président de la République qui, pour l'Intérieur, veut quelqu'un qui est très proche de lui, parce que c'est un poste, on a la carte électorale, les élections...
On est à 2 ans de la présidentielle, et donc c'est important.
On maîtrise beaucoup de choses, donc il avait voulu Christophe Castaner, et c'est aussi un peu pour ça que Christophe Castaner est resté, alors qu'il était l'objet de nombreuses critiques. Et Gérald Darmanin, il voulait ce poste aussi, ça l'a toujours intéressé, l'Intérieur. Mais Gérald Darmanin, il est quand même très marqué comme venant de chez les Républicains, et donc du côté de l'aile gauche, de la majorité qui ne voit pas beaucoup des gens de cette aile-là promue, bah ça coince un peu, ça coincerait Gérald Darmanin à l'Intérieur. Mais après tout, il faut bien le faire, ce remaniement.
Laetitia Krupa.
C'est drôle parce qu'il a des tractations. Là, je vais dévoiler les coulisses d'Europe 1.
Oui.
Mickaël Darmon qui est au téléphone. Et on entend Darmanin. Donc voilà, c'est un peu
toutes les rédactions
sont en ébullition. Oui, effectivement. Peut-être qu'aussi, ils prennent un peu de temps pour soigner la sortie de Christophe Castaner. Il faut quand même une sortie honorable pour ce fidèle de la première heure dans l'équipe d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il l'a maintenu à son poste alors qu'il était conspué de toutes parts. Donc oui, ça prend un peu de temps, hein, ce poste de ministre de l'Intérieur. Et surtout, il faut toujours soigner les sortants. C'est très important en politique.
Allez, 18h35, information Europe 1, Mickaël Darmon.
Apparemment, le bras de fer a été gagné par Gérald Darmanin. Donc, Gérald Darmanin serait ministre de l'Intérieur.
Voilà. Parce que, tel qu'on vient de me le dire encore à l'instant, donc effectivement, ça tourne dans ce sens-là. Ça a été le blocage de toute la journée, puisque l'enjeu est effectivement, au début, pour Gérald Darmanin, de récupérer un gros ministère du Travail et Affaires Sociales avec les retraites, chose qu'Olivier Véran n'a pas acceptée, n'a pas voulu donc lâcher. Et cet arbitrage a été rendu ce matin par le président de la République. Et à partir de là, Gérald Darmanin a fait savoir qu'il voulait donc un gros régalien. C'était la défense ou l'intérieur, ce qu'il veut depuis longtemps, ce dont il rêve. Et ça a été l'occasion, peut-être aussi, d'après ce que l'on comprend, d'un premier bras de fer entre Jean Castex, qui se révèle être beaucoup plus qu'un supposé collaborateur, et le président de la République, puisque Jean Castex a sponsorisé, entre guillemets, la solution Darmanin, alors que Macron a préféré, on le sait, donc Blanquer. À partir de là, ce que l'on entend, c'est qu'effectivement, c'est Darmanin, même si ça peut encore changer jusqu'au dernier moment. Hein, vous savez qu'un remaniement,
bien sûr.
Il faut savoir que jusqu'au moment où la personne, le secrétaire général, parle sur le perron, tout peut encore changer.
Les micros sont sortis. Actuel, donc,
on est plutôt de ce côté-là.
Bon, confirmation d'ici peu après 19h, hein, visiblement, c'est ce que dit l'Élysée. Pour Gérald Darmanin, ce serait un défi immense. Il faut vraiment recréer le dialogue avec les policiers, Marie-Ève Malouine.
Oui, il faut recréer le dialogue, il faut recréer la confiance, non seulement avec les policiers, mais entre les policiers et la population, entre le ministre de l'Intérieur et la population. Donc c'est un jeu à trois participants. On sait qu'il aura là-dessus le soutien de Jean Castex, parce que le déplacement du Premier ministre hier auprès des policiers, en leur disant « on va vous écouter », il était venu tout seul, sans Christophe Castaner. C'est là où on a compris que bon, les jours de Christophe Castaner c'était terminé place Beauvau, en leur disant « je reviendrai avec un ministre qui aura été choisi sur ma proposition ». Donc ça veut dire que pour réinstaller ce ministère régalien, un rapport fort d'autorité entre le ministre et ses troupes, du premier flic de France, il aura tout à fait le soutien du Premier ministre. Donc c'est déjà un atout assez important, mais il y a énormément de problèmes à régler. Il y a la réforme de la police, et puis il y a ces problèmes de violence policière. Le terme est passé dans le langage courant contre la vie des policiers, et là, il y a des choses à faire.
Ouais, un mot, Laetitia Crippa, sur ce gros ministère donc, que devrait avoir l'intérieur Gérald Darmanin. Il est attendu au tournant.
Oui, bien sûr, évidemment, pour tous les enjeux qu'a rappelé Marie-Ève. Moi, je voulais juste vous rappeler une phrase de Gérald Darmanin dans le JDD. Alors, bon, bien sûr, il parlait de sa ville, mais c'est assez intéressant de lire. Mon ADN, c'est d'être un élu local à portée d'engueulade. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente, Gérald Darmanin, un homme de terrain, un homme qui n'a pas peur d'être au contact. Alors, les policiers, bien sûr qu'ils l'attendent de pied ferme, hein, on le sait tous, il le sait, il a suivi les conflits, il a suivi toutes les revendications. Je pense qu'il se pense prêt, voilà, prêt à l'engueulade et prêt à la confrontation avec la rue et avec les policiers.
Dans les coulisses du gouvernement et du remaniement, on y reparle dans un instant avec nos grandes voix ce soir sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, entouré des grandes voix, Laetitia Crippa, Marie-Ève Malouine et Mickaël Darmon.
Voilà, dans les coulisses de ce remaniement que l'Élysée annonce autour de 19h et qu'on va vivre ensemble ce soir en direct sur Europe 1 avec nos grandes voix. Laetitia Crippa, on parlait de Gérald Darmanin, on l'a vu bien sûr dans son précédent poste, il est attendu au tournant, il a le poids politique pour gérer l'intérieur, pour gérer la place Beauvau.
Il me semble, oui, qu'il a un ancrage territorial, il a fait ses preuves, il a l'appui de beaucoup dans la majorité, surtout à droite, hein, on connaît sa famille, donc oui, bien sûr, et puis encore une fois, il l'a fait savoir à plusieurs reprises, si vous êtes lecteur assidu de la presse, on sait que Gérald Darmanin trépigne, il est prêt à ce poste d'envergure, parce qu'il veut être un homme d'État d'envergure.
Mickaël Darmon.
Alors tout d'abord, il faut savoir que la bagarre continue. Donc, ouais. Vraisemblablement, l'arbitrage a été donné à Gérald Darmanin, mais on sait que dans un remaniement, tout, c'est comme le match de tennis, tant que la balle de match n'a pas rebondi deux fois.
Exact.
Bon, mais pour l'instant, avantage, on va dire, Darmanin. Pour rebondir sur ce que dit Laetitia Crippa, les policiers vont voir à travers Darmanin Nicolas Sarkozy.
Oui.
Exact.
Ils vont, et parce que bien évidemment, on ne peut pas mettre de côté le fait que le mentor. La trajectoire politique, enfin quand
bien
même,
sûr,
on commence à
sûr.
Cocher les cases. Budget, et si c'est le cas, intérieur. Ça rappelle exactement le parcours de Nicolas Sarkozy. Donc, et qui est conseiller, qui le conseille pas à pas.
Est-ce que c'est un bon signal, Mickaël?
Ça, j'en sais strictement rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a une trajectoire qui se construit et qui se construit avec quand même une forme d'influence, en tout cas de tutorat. Aujourd'hui, s'il arrive à l'intérieur, on le saura maintenant dans quelques minutes, bien évidemment, il y aura en résonance, en back-office, il y aura bien entendu l'image et l'attitude qu'a eu Nicolas Sarkozy avec les policiers et qui rejoint ce que disait effectivement Laetitia Krupa sur la manière, l'ADN politique d'un Gérald Darmanin.
39-21, Jean-Claude de Brive nous attend au standard. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux grandes voix.
Merci.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Ce que j'attends, moi, de ce remaniement, c'est que l'on arrête de brutaliser la France et les Français, comme ça a été le cas depuis 2017, et que l'on soit efficace à présent, qu'on arrête de tourner autour des choses, autour du pot, et de ne pas avancer surtout, parce que depuis 2017, en fait, il ne s'est rien passé.
Merci à vous Jean-Claude, vous appeliez de Brive. C'est bien sûr l'enjeu, d'ailleurs Jean Castex l'a dit hein, ce week-end dans le JDD, il veut ouvrir des concertations, réconciliation, voilà les mots que l'on entend beaucoup dans le discours de Jean Castex, Marie
oui,
Madeleine.
Oui, avec ce que dit cet auditeur, on croit entendre le débat sur la réforme des retraites, oui. Puisque cette réforme des retraites a tellement occupé l'espace après les Gilets jaunes, qu'elle devient la réforme emblématique du quinquennat d'Emmanuel Macron, et donc si elle aboutit pas, ça donne le sentiment qu'avant rien n'a été fait. Il y a quand même eu les lois Pénico, la réforme de la SNCF, mais il reste la réforme des retraites, qui devait être la réforme de fond, de tout le système, plus juste, avec un volant social. Et on comprend pourquoi le président de la République veut la remettre sur le métier. Et de l'autre côté, Jean Castex qui dit, on va en reparler, mais peut-être c'est plus l'aspect financier, avec ce trou de 30 milliards qu'il faut combler.
Mais dites-moi, c'est le bon moment
pour...
Alors que de remettre justement cette réforme sur le tapis, à un moment, il va falloir qu'on se rassemble, où la rentrée sociale, économique va être très difficile.
C'est pas le bon moment, puisque même les partenaires sociaux, que ce soit le patronat ou les organisations syndicales, disent c'est pas le moment. Mais en même temps, si Emmanuel Macron ne le fait pas, il arrivera en 2022 comme un candidat qui on dira qu'est-ce que vous avez fait comme réforme, la réforme des retraites, vous avez pas su la faire.
Laetitia Krupa. Bah,
c'est impossible de différer cette réforme des retraites. Déjà, la crise. Alors. Attention, il faut voir aussi à l'automne si effectivement on sort ou pas de cette crise sanitaire, parce que c'est quand même le grand point d'interrogation. Pour l'instant, on est en été, on sait que le virus se propage moins, du coup il y a un peu de relâchement, et puis même dans les consciences, dans la conscience collective, mais quid de l'automne, et en fonction bien sûr que il faut relancer pour Emmanuel Macron cette réforme des retraites modifiée, il l'a dit déjà, hein, il a annoncé qu'effectivement cet âge pivot, puisque maintenant Édouard Philippe est parti, peut-être que cet âge pivot, on va le rediscuter ou pas, ou le laisser de côté, carrément.
Mickaël Darmon.
Oui, elle est dédroitisée, la réforme des retraites.
Ouais.
C'était le point de rupture,
bien sûr,
hein, puisqu'on a, on a toujours voulu dire que les deux, Édouard Philippe et Macron, s'entendaient bien. C'était pas vraiment la réalité. On a souvent pointé leur point de divergence. La réforme des retraites, c'était un point de divergence, puisque ça partait d'une réforme, comme on l'a dit, systémique, plutôt inspirée par la gauche et la CFDT, voulue par le candidat Macron. Et à la fin, c'est devenu une réforme avec un âge pivot, une mesure d'âge sur le système financier qu'il fallait réorganiser. Et plutôt reprise par Édouard Philippe. Et ça, c'était un point, effectivement, de tension. Donc là, il la dédroitise, il la remet dans sa logique de justice sociale. Comme il dit, c'est pour les derniers, les premiers de corvée, hein, c'est plutôt pour eux. Et de ce point de vue-là, il va tenter de réembarquer les syndicats, d'ailleurs en particulier la CFDT, mais ça s'avère, enfin en tout cas ça s'annonce très compliqué. Ouais.
Rentrée sociale agitée, on va regarder deux postes importants, le ministère du Travail, bien sûr Bercy, Marie de Malouine.
Oui, parce qu'on sait que la crise sanitaire reprenne ou pas, il y a une crise économique majeure, sans précédent. On voit les plans sociaux qui commencent à s'accumuler, sans parler des petites entreprises, des moyennes entreprises qui vont devoir déposer le bilan. 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui sera en retrait, en régression, hein, qui sera même plus saturé, il sera en régression. Donc là, elle est là, l'urgence. C'est qu'à la rentrée, on se demande même si c'est pas trop tard pour ce plan de relance. Les entreprises, elles sont en train de mettre la clé sous la porte maintenant. Ouais. Et les jeunes qui sortent de l'école, il y en a beaucoup qui se disent, ceux qui peuvent, je vais refaire une année pour essayer de faire valoir mon diplôme. L'année prochaine, ça ira mieux. Mais ceux qui peuvent pas, ils seront sur le marché du travail.
Et ça vous fait des jeunes. Les apprentis, enfin, c'est.
Et ça fait
très dur pour les jeunes.
Une génération avec leurs parents qui se disent, on a fait des efforts pour faire des études, pour obtenir des diplômes. Et là, on se retrouve dans une société qui nous dit qu'il n'y a pas de place. Je pense que plus que les retraites, la priorité, elle est là. Parce que ça passe par les jeunes. Si les jeunes et leurs parents se disent la société nous donne rien, c'est qu'il y a au-delà de tous les problèmes qui existent déjà, ça en rajoute un qui est encore plus gros.
Dans les coulisses de ce remaniement, on continue à en parler, on va parler d'écologie également dans un instant. Remaniement que l'on va vivre en direct sur Europe 1 à partir de 19h. Restez avec nous.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 en édition spéciale hein, ce soir avec vos grandes voix, Laetitia Krupa, spécialiste communication politique, Marie-Ève Malouin et Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1.
Messieurs, dames, à gauche, chez les écolos, on reproche déjà à Jean Castex de ne jamais avoir parlé d'écologie avant. Il ne l'incarne pas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer finalement un Premier ministre plus vert ?
Attendez un petit peu quand même, il a juste parlé, il a juste donné une interview dimanche. Il a parlé, je vous rappelle, de relance économique, écologique et sociale, il a juste repris les termes d'Emmanuel Macron.
C'est juste dit comme ça en passant.
Ouais, du 29 juin, voilà, Emmanuel Macron n'avait pas dit plus ni moins. Attendez-le, évidemment que c'est impossible de ne pas donner un signe aux écologistes, c'est impossible. Déjà, après le départ fracassant de Nicolas Hulot, que Emmanuel Macron laisse ce ministère, enfin le redonne comme ça, un peu comme une patate chaude à Elisabeth Borne, c'était hallucinant. Ouais. Enfin, c'était quand même un signe donné très 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 négatif donné aux écolos. Là, évidemment que normalement, une personnalité relativement charismatique et en tout cas des propositions concrètes vont être faites dans les prochains jours.
Mickaël Darmon,
j'ai un 12 mois.
Ah.
J'ai un doute parce qu'en fait, déjà, la première décision de Jean Castex, c'est de dire cette histoire des pôles et rapprochement des synergies, on arrête. Ça ne marchera pas. Donc ça veut dire que la relance verte qui devait être transverse, comme on dit, transversale,
avec un grand ministère
les ministères, irrigant. Déjà, ça devient plus compliqué. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que Pascal Canfin n'a pas pu venir parce qu'il était quand même en négociation avec le président depuis très longtemps, depuis quelques semaines, quelques jours, pour pouvoir venir. Il voulait cette approche un peu transversale. Ça n'a pas eu lieu. Donc là, on est plutôt sur peut-être une Barbara Pompili.
Qui vient de chez Les Verts.
Qui vient de chez Les Verts, qui a été ministre de la Biodiversité chez François Hollande, qui est député de La République En Marche, qui a créé, il y a quelques semaines, à l'intérieur du groupe La République En Marche, un groupe d'une quarantaine, soixantaine maintenant de députés qui sont de sensibilité écologiste. Et donc, elle va devoir incarner cela avec certainement d'autres collègues.
Qui est sur la ligne de Rugy.
Comment, pardon ?
Qui est sur la ligne de Rugy, en gros.
Sur la ligne de Rugy, absolument. Donc, on est sur une incarnation politique, mais cette fameuse incarnation de Nicolas Hulot qui délivre, comme on dit à l'Élysée depuis quelques jours, manifestement, c'était difficile à trouver, sauf surprise.
De toute façon, ça ne servait à rien. Donc, avoir un ministre charismatique, propose rien, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, autant avoir, à la limite, une Pompidou qui est un peu moins charismatique, un peu moins médiatique qu'un Nicolas Hulot, et avoir des propositions concrètes. Hein. C'est ce qu'attendent les Français. Ils attendent des solutions. Ils n'attendent pas de rêver à partir d'une personnalité.
Il y a eu des promesses, des engagements de la part du président de la République. Que va-t-il faire, ce gouvernement, des 146 propositions de la Convention citoyenne ?
Alors, le président de la République s'est engagé. Hein. Les parlementaires vont devoir s'en saisir. Tout ça doit être traduit dans des projets de loi assez rapidement. C'est vrai qu'on a eu la personnalité charismatique avec Nicolas Hulot. Il avait des idées, mais il n'arrivait pas à les transmettre et à peser au sein du gouvernement. Prendre quelqu'un qui connaît un peu mieux les arcanes gouvernementales, les administrations, qui pourra se battre
les dossiers
dans la constitution d'un cabinet, surtout quand c'est un nouveau gouvernement, comme Barbara Pompili, qui était secrétaire d'État de Ségolène Royal. Et on a beau dire, dans l'expérience pour peser au sein d'un gouvernement, Ségolène Royal, c'est plutôt une bonne école. On se souvient qu'elle savait à chaque fois grignoter au-delà de son ministère. Mais ça va être effectivement très difficile, puisqu'on sent qu'au sein du gouvernement, on est plus proche des vœux pieux en matière d'écologie plutôt que des réalisations concrètes depuis le début de ce mandat.
Denis nous appelle au 3921. Bonsoir Denis.
Bonsoir Thierry.
Vous nous appelez des Deux-Sèvres.
Exactement.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Moi, ce que j'attends de ce casting ou de ce jeu de chaises musicales entre membres du gouvernement, c'est surtout une ligne directrice économique, sociale, sociétale, parce que c'est pas les hommes ou les différentes femmes qui vont faire la politique de demain, c'est les Français et surtout quelque chose de neuf, de la novation sociale, novation économique, novation sociétale. On a besoin d'autre chose pour répondre aux problèmes de notre société. Donc, n'importe qui que vous mettiez comme ministre...
Il faut de l'audace.
Il faut de la... Oui, puis il faut du nouveau, il faut aller vers le multi-emploi universel, il faut aller vers le multicapitalisme, il faut la 6e République. Si on ne fait pas ça, on fait comme avant, et puis dans 2 ans, on va avoir de gros problèmes aux élections. Hein.
Merci à vous, Denis, de nous avoir contactés au 39-21. Michael Darmon, mesdames, c'est vrai que là, c'est un point important. Est-ce qu'il peut y avoir une transformation profonde de notre système social? Finalement, en pleine période de crise économique, ça va être compliqué, Michael Darmon.
Oui, ça va être très compliqué de le faire parce que vous savez, finalement...
La marge de manœuvre est assez...
D'une part, il va falloir effectivement faire en sorte que de limiter la casse, comme on dit. S'il faut remettre, éviter que les plans sociaux ne soient très importants et faire en sorte que le chômage soit résorbé ou contenu le plus possible, on va revenir sur un traitement social, donc c'est plutôt compliqué. Et d'une manière plus générale, le projet d'Emmanuel Macron était de transformer, d'adapter la France au XXIe siècle. Voilà que, à 2 ans de la présidentielle, il doit préserver la France et non pas préserver le système. Faire en sorte que les Français soient protégés par cette mondialisation, alors que le projet de départ était de les préparer, de les adapter, de faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise et qu'ils reprennent une forme de maîtrise de leur destin, tel qu'il le disait, à l'intérieur d'un monde globalisé. C'était quand même le diagnostic et le projet de départ. On voit que les crises successives... ont considérablement fait changer ce projet.
Marie-Ève Malouine, Laetitia Krupa, Michael Darmon, vous restez jusqu'à 19h30, on se dit. Hein. On va écouter le secrétaire général de l'Élysée annoncer le gouvernement dans un instant. Europe 1 reste mobilisé, on va vivre ensemble l'annonce de ce nouveau gouvernement. A tout de suite.
Europe 1.
Suivre Thierry Dagiral sur Europe 1.
Spécial remaniement ce soir sur Europe 1 en direct. Toute la rédaction reste bien sûr mobilisée pour vous informer. Les micros sont sur le perron de l'Élysée. Annonce imminente et décryptage bien sûr avec nos grandes voix ensuite. Et avec vous, 39-21, hashtag Europe 1. Mais tout de suite, la météo.
L'orage à Beaugrandé, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Anissa, quel temps demain?
C'est l'été. Demain pour tout le monde. Et en plus, il n'y aura pas de jaloux parce que le soleil brille pour toute la France dès le début de journée avec encore un petit peu de fraîcheur tout de même sur la moitié nord et l'est du pays. Dans l'après-midi, sur les côtes de la Manche, quelques nuages vont circuler. Mais je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de votre parapluie. Demain, vous aurez en revanche besoin de vos lunettes de soleil. C'est une belle journée d'été. Dans le sud, le vent est toujours au rendez-vous. Ça fait plusieurs jours maintenant que le Mistral et la Tramontane soufflent dans le sud. Alors demain, le vent devrait se calmer en fin de journée. Les températures, elles sont toujours fraîches demain matin, dans le nord et le nord-est. 4 à 6 degrés sur les Ardennes, 9 degrés à Rennes, 11 à Bourges, c'est Rennes léger. Et Brest. Ouais, c'est léger. 13 à Paris, ça devient beaucoup mieux dans le sud, avec 16 à Montélimar, 18 à Perpignan. Et écoutez bien, demain, quand vous allez ouvrir les volets à Nice sur la Côte d'Azur, il fera déjà 23 degrés. Déjà le matin. Et dans l'après-midi, alors ça va de 18 à 30 degrés, 18 pour Cherbourg, toujours frais dans le nord et le nord-ouest du pays, 22 degrés à Nantes, 23 à Strasbourg, et là ça devient sympa, 24 pour Paris, 26 à Toulouse et Ajaccio, 27 à Nice, et il fait chaud dans le sud, 30 à Montpellier, 30 à Perpignan et jusqu'à 34 degrés à Nîmes, 36 même à hier, attendu demain.
Vive l'été, merci Alissa.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h. Votre grand journal du soir, édition spéciale, jusqu'à 20h avec vous, Thierry Dagiral.
Bien sûr, toute la rédaction d'Europe 1 reste mobilisée pour vous informer. Remaniement imminent, annonce imminente autour de moi. Les grandes voix qui restent au moins jusqu'à 19h30, on va commenter, analyser, on va vivre en direct également cette annonce faite par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Michael Darmon,
oui.
Ça semble encore compliqué.
Oui, ça semble compliqué, mais enfin, les listes qui commencent à tourner stabilisent un petit peu quand même le dispositif. On est toujours à l'heure actuelle sur un Gérald Darmanin qui serait à l'intérieur, mais attention, c'est vraiment ce genre de situation où tout peut changer jusqu'au dernier moment. Ce gouvernement de Castex 1, on va dire, qui était limite peut-être casse-tête, presque, en tout cas, donne le sentiment qu'on n'est pas face à un collaborateur transparent, fade, comme on pouvait l'imaginer. On est face quand même à un personnage qui existe, qui donne sa mesure, qui veut montrer qu'il décide. D'ailleurs, on l'a dit avec Marie Malouine, quand il est allé effectivement au commissariat, il a dit « Je viendrai avec le ministre que, au fond, j'ai choisi pratiquement, sur ma proposition. » Donc, il veut montrer qu'il existe, qu'il n'est pas un personnage comme ça, simplement un exécutant. Parce qu'il sait aussi qu'il a un rapport de force, et vraisemblablement en a-t-il déjà gagné quelques-uns au cours de ce remaniement. C'est toujours un peu le bizutage hein, pour un Premier ministre nouveau, un remaniement, parce qu'il faut s'imposer aussi face au président. Et manifestement, ça a été le cas, et il aurait réussi sur pas mal de cas.
Direction l'Elysée, à présent, où on retrouve Adrien Beck du service politique d'Europe 1 sur place. Adrien, les micros sont désormais disposés sur les marches de l'Elysée.
Absolument, le pupitre, le micro, les drapeaux, tout est là pour l'annonce de ce gouvernement, épilogue au fond d'une journée où les derniers réglages, Michael en parlait, ces derniers réglages se sont poursuivis jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. Jean Castex a déjeuné tout à l'heure avec Emmanuel Macron, il s'est rendu au Sénat, il s'est rendu à l'Assemblée nationale, il s'est rendu au Conseil économique, social et environnemental, il a rencontré les présidents de ces trois Assemblée. Jean Castex qui est à présent de retour à Matignon, Emmanuel Macron qui lui est à l'Elysée. Le pupitre, vous l'avez dit, est là, la presse est en place et il ne manque plus que le secrétaire général de l'Elysée qui va agréner les noms de la vingtaine de ministres qui seront nommés ce soir et qui est attendu donc dans les toutes prochaines secondes.
Merci beaucoup Adrien Beck du service politique d'Europe 1 à l'Elysée. Marie-Ève Malouine, pourquoi ce besoin pour Jean Castex aujourd'hui d'aller voir le président du Sénat, celui de l'Assemblée, le Conseil économique et social?
Je crois qu'il veut montrer que ça va être une méthode un peu différente de concertation. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée, c'est aussi s'inscrire dans les institutions. Et ça rejoint ce que disait aussi Michael Darmon. Il veut peser, c'est un Premier ministre qui va prendre toute l'ampleur de sa fonction dans le cadre des institutions, c'est ce qu'il a dit dans ses différentes interviews au JDD ou sur TF1. Et donc, il est aussi le chef de la majorité parlementaire. Donc, il va voir les représentants du Parlement, le CESE aussi. Ouais. Et donc, c'est pour montrer beaucoup de respect. Bon, il va rassurer aussi, en titre politique, Richard Ferrand, qui est un peu inquiet de se dire il n'y a pas beaucoup de gauche peut-être dans ce gouvernement. Mmh. Et de l'autre côté, il y a Gérard Larcher qui veut décentraliser, qui représente les territoires. Il va aussi le rassurer en disant je viens d'un territoire rural, je suis attaché au territoire et la décentralisation, ça fait partie de ma méthode.
Rassurer, Michael Darmon.
Oui, c'est le haut fonctionnaire d'en bas. Et puis surtout, il veut montrer la différence avec Édouard Philippe. Édouard Philippe n'a pas voulu s'approcher de la majorité, n'a pas voulu être animateur de la majorité. Et ça lui a été finalement reproché, à tel point que c'est même totalement baroque d'entendre qu'éventuellement l'Élysée aurait confié à Édouard Philippe une mission de reconstruire la majorité alors qu'il s'en est pas occupé quand il était à l'intérieur de cette majorité. Donc on voit bien que c'est une manière aussi de faire un peu un droit d'inventaire courtois d'Édouard Philippe, c'est-à-dire moi je traite les parlementaires, je les considère comme étant des partenaires parce que c'est l'enjeu également pour le chef de l'État.
Mais clairement la page est tournée.
Clairement.
La méthode, en tout cas.
Dans la méthode, on voit bien que c'est ce qui est mis en scène depuis sa nomination.
Ouais.
Ça n'est pas, une fois de plus, le haut fonctionnaire qui reste dans son bureau. On aurait pu penser qu'il aurait pu passer là 3 jours à composer la liste du gouvernement. Pas du tout. Il est allé faire une sortie donc, dans l'Essonne sur le thème de l'économie. Ensuite, une visite surprise dans un commissariat
à la
Courneuve. Vraisemblablement, on aura ce genre de scénographie pendant les prochains jours pour bien montrer qu'il est à l'action, qu'il faut aller vite, pas de temps à perdre. Les Français doivent voir que le gouvernement est reparti, le nouveau chemin et tout ce qui s'ensuit. Donc, de ce point de vue-là, il faut s'attendre à un Premier ministre qui sera actif. Et puis surtout, on verra petit à petit les ministres se déployer. Et on attend bien entendu maintenant le grand exercice qui sera le discours de politique générale qui interviendra après le 14 juillet après l'interview, maintenant on le sait, l'interview télévisée. Ouais. Là aussi, le nouveau chemin commence par une tradition qui est remise au goût du jour, c'est-à-dire l'interview du 14 juillet qui avait été déclarée ringarde. Ben, ce qui est ringard devient moderne.
Jean Castex, haut fonctionnaire, donc les pieds dans la terre, vous l'avez dit, qui ne mâche pas ses mots aussi. Hein. Il a parlé de communautarisme, de comportement de repli sur soi qu'il ne tolérerait pas. Dans son interview hier au journal du dimanche, Laetitia Krupa, c'est assez cash. Hein.
Oui, mais c'est important, ces premières minutes, ces premières heures, ces premiers jours. À la limite, c'est même fondamental. C'est-à-dire que c'est l'impression que va donner tout de suite cet homme nouveau dans le gouvernement, ce chef du gouvernement, et c'est capital de marquer tout de suite une empreinte forte et surtout distinguable, différente de celle d'Édouard Philippe. Parce que Emmanuel Macron nous a promis du changement. Quand on a vu Jean Castex arrivé, on s'est dit, bon, Ok, qu'est-ce qui est vraiment différent d'Edouard Philippe? Donc il a cette tâche-là à la fois de nous dire qui il est, pourquoi il est différent et de tout de suite donner un signal fort. Ça, c'est fondamental en politique.
Vous qui avez qui suivez la politique depuis longtemps, ce Jean Castex vous fait penser à qui? C'est Raffarin Chirac 2002, c'est Michel Debré de Gaulle, mais ça vous étiez... Pané,
on a appris à lire,
mais on a appris à lire quand même. Michel Debré qui est en retrait totalement derrière la fonction présidentielle.
Je crois que c'est difficile de comparer parce qu'on n'a jamais eu un président comme Emmanuel Macron. Et donc, chez Emmanuel Macron, il n'y a pas d'expérience de l'exercice du pouvoir avant son élection à l'Élysée. Et donc là, il revient encore plus vers quelqu'un qui va le ramener vers des choses organisées, cadrées. Ouais. Et donc, Jean Castex, ça pourrait se comparer peut-être à Mesmer, hein, qui était un haut fonctionnaire. Et il y a moi ce qui me frappe, c'est la volonté de Jean Castex de dire presque j'étais prêt. Parce qu'on dit, oh, d'où il sort, personne ne le connaissait, les JO, le déconfinement. Et lui, tout de suite, il nous dit, non mais je suis prêt, je suis Premier ministre, je m'y sens très bien, voilà ce que je vais faire, mon discours.
Je vous interromps, Marie-Ève. Ouais. Voici le secrétaire général de l'Élysée qui annonce le gouvernement en direct sur
Europe 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre, Monsieur Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Madame Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Auprès de la ministre de la Transition écologique, Madame Emmanuelle Wargon, chargée du logement. Monsieur Jean-Baptiste Djebari, chargé des transports. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur Olivier Dussopt, chargé des comptes publics. Madame Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'Industrie. Monsieur Alain Griset, chargé des petites et moyennes entreprises. Auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Madame Roxana Maracineanu, chargée des sports. Auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de l'Intérieur, Madame Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté. Auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Brigitte Klinkert, chargée de l'insertion. Auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Madame Nadia He, chargée de la Ville. Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Brigitte Bourguignon, chargée de l'Autonomie. Et nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mardi 7 juillet à 15h. Je vous remercie.
Voilà, vous venez de vivre et d'entendre en direct Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, annoncer ce nouveau gouvernement avec une surprise de taille.
Il y en a plusieurs quand même.
Il y en a plusieurs.
Ah, quand même, oui.
Mais Maître Dupond-Moretti à la justice.
C'est assez étonnant, c'est un avocat, il est chroniqueur aussi, il parle, il s'exprime beaucoup. Et puis c'est un avocat qui vient de déposer plainte contre X dans le cadre de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'on a examiné ses fadettes en pensant qu'il aurait pu informer Nicolas Sarkozy du fait qu'il était écouté. C'est ça le fond de l'affaire. Ouais. Et donc il devient ministre de la justice. J'imagine qu'au PNF, là, actuellement, ça doit beaucoup s'agiter et téléphoner. C'est une des grosses surprises, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a son franc-parler, c'est vraiment l'avocat, le ténor dans toute sa splendeur. Et donc, dans un gouvernement, ça risque de faire pas mal de bruit.
Mickaël Darmon, Laetitia Crupin, un petit mot de chacun, très très rapidement, puisqu'on va partir en pub, et puis on va bien sûr détailler ensuite et analyser ensemble ce nouveau gouvernement. Laetitia.
Bah, ceux qui ne sont plus là, hein, Castaner, Sibeth Ndiaye, Belloubet, donc ça, il faudra en reparler juste après la pub, mais juste, oui, c'est très moderne, post-moderne, contemporain, des ministres médiatiques. Moi, ça me fait penser aux États-Unis, parce que, franchement, autant Roselyne Bachelot que Dupond-Moretti, pour moi, ce sont des personnages médiatiques avant tout.
Mickaël Darmon, un mot.
Le carré de tête reste quand même celui des proches d'Emmanuel Macron, et en particulier avec des hommes, à part Florence Parly, aux armées.
Allez, on continue à décortiquer, analyser sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h en édition spéciale suite à l'annonce du nouveau gouvernement. Vous pouvez nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1, posez vos questions en direct au 3921. Vous êtes entouré des grandes voix. Thierry Dagiral, Laetitia Crupa, Marie-Ève Malouine et Mickaël Darmon.
Et on vient de le vivre bien sûr en direct sur Europe 1, l'annonce de ce nouveau gouvernement. Annonce faite par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Alors on va, si vous venez de nous rejoindre, vous redire hein, Le Drian à l'Europe, aux affaires étrangères, pas de changement. À l'écologie, Barbara Pompili, à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer ne bouge pas, à l'économie, pas de changement, le maire, économie, finance, et à la relance, Florence Parly, aux armées. Vous aviez raison, Mickaël Darmon, Gérald Darmanin, à l'intérieur. Allez, on s'arrête là-dessus, un instant.
Oui, un instant, parce que c'est quand même symbolique. C'est symbolique, effectivement, de l'évolution, bien sûr, de ce gouvernement. C'est symbolique de moments stratégiques dans lequel se trouve le président de la République qui entame cette nouvelle étape, c'est-à-dire le début de sa campagne présidentielle.
Ouais.
Et il doit tout simplement aujourd'hui reconstruire effectivement des relations avec les policiers notamment, mais au-delà de ça, avec un Gérald Darmanin qui a sans arrêt professé le fait qu'il fallait mettre le peuple en avant, son ADN c'est le peuple, qu'il faut jouer absolument cette relation avec le peuple, dont il estime que la Macronie n'est pas assez opérant de ce point de vue-là. Donc il vient aussi réparer avec, en tout cas tenter de réparer, avec Jean Castex, ce qui manque à la Macronie, c'est-à-dire d'être beaucoup trop organisé sur le haut de la société et pas assez en bas. de ce point de vue-là, on verra s'il réussit.
Changement de poste pour Elisabeth Borne, hein, au travail, à l'emploi, à l'insertion. Le cornu à l'outre-mer, Gouraud, contenu et territoire. La grosse surprise dont on parlait il y a quelques minutes, c'est Dupond-Moretti, donc maître Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Laetitia Krupa.
Grosse surprise, bah, à son image, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est pas là qu'on l'attendait, il me semble. Donc, il fait un petit coup. Voilà, il sait faire ça, Maître Dupond-Moretti. Il va falloir faire attention quand même à pas mélanger les genres, à pas mélanger les styles. La politique, ça reste une pratique particulière, bien qu'on le soit en 2020 aujourd'hui. Et il me semble que Maître Dupond-Moretti est quand même passé maître sur scène, hein, parce que il me semble que là, il devait avoir un nouveau spectacle. Donc, en fait, il y a un mélange des genres qui est quand même un peu un handicap quand on prend un poste de cette envergure et qu'il va falloir tout de suite éclaircir.
Qu'en pensent nos auditeurs? 3921, Barbara nous appelle de Paris. Bonsoir Barbara, c'est intéressant de vous entendre, vous êtes avocate. Votre réaction?
Oui, bonjour à tous.
Bonsoir Barbara.
Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, moi je suis très surprise, hein, je pense comme nombre de Français, de cette nomination de mon confrère Dupond-Moretti. Je m'en réjouis quand même, dans le sens où je pense que c'est justement un professionnel qui est capable d'entendre les difficultés que nous avons rencontrées, les mois de grève auxquels nous avons fait face avant la crise sanitaire.
Donc il faut reconnaître les morceaux et se tendre la main, se donner la main en tout cas.
Exactement, puisqu'il est au fait de toutes les difficultés que traverse le système judiciaire, que ce soit les magistrats, les greffiers, les avocats, la justice est réellement sinistrée. Et là, effectivement, c'est une décision forte à mon sens, parce qu'elle met un avocat, donc quelqu'un vraiment au fait des difficultés professionnelles pour, je l'espère, les résoudre, ce qui n'a pas été fait avant, puisqu'on a été dans une situation et avec très peu d'écoute précédemment. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce confrère que je rencontre de temps en temps au palais. J'espère qu'effectivement il va être à même de résoudre un certain nombre de difficultés sans avoir les points liés, et j'espère qu'il pourra agir et qu'on lui donnera les moyens de le faire.
Merci infiniment Barbara de nous avoir contacté au 3921. Bien sûr, ce numéro, vous le gardez, vous réagissez et vous intervenez à tout moment sur l'antenne d'Europe 1. Michaël Darmon.
Il y a l'envie également de présenter une équipe, cette fois-ci, qui ne sera pas une équipe de gens inconnus, avec des figures.
C'est réussi.
Manifestement, c'était quand même le but, c'est-à-dire effectivement d'accrocher des thématiques importantes à des visages connus qui peuvent créer de l'adhésion, de l'incarnation, comme on dit. Bah, Maître Dupond-Moretti est quand même très connu. Roselyne Bachelot est quand même
connu. Mais c'est un gage de réussite, ça, pour gérer.
J'ai pas dit que c'était un gage de réussite. J'ai dit qu'on décrypte les tentatives et ce que l'on comprend de la composition de cette
équipe. Pour fédérer, c'est quand même important, la notoriété. Mmh. Hein, on le sait en politique.
Voilà, c'est créer de l'adhésion, incarner. Aujourd'hui, ce sont les thèmes, les mots contemporains. Donc, c'est ce que les Français aussi comprennent et adhèrent aussi. Les nouvelles générations aussi adhèrent autour de ces démarches-là. Donc, si la figure est connue, si elle génère une forme de sympathie, alors peut-être peut-on être plus sensible au message.
Ouais.
On verra. De toute façon, il essaye, il peut, maximum pour lui, ça peut marcher. C'est tellement en difficulté que de toute façon, il ne peut aujourd'hui qu'être dans l'audace et la manière de dire Macron refait du Macron. Voilà, on verra bien si les Français adhèrent et surtout si leur vie s'améliore, compte tenu que la rentrée, évidemment, ça ne sera pas une partie de plaisir.
Et il y a une autre surprise, Roselyne Bachelot à la culture, on en parle, allez, dans 1 minute 30.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 en édition spéciale jusqu'à 20h suite à l'annonce de ce nouveau gouvernement. Avec vous Thierry Dagiral, les grandes voix, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, Marie-Ève Malouine et Michaël Darmon, éditorialiste Europe 1. Et puis vos réactions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en direct 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Voilà, et on connaît maintenant, vous l'avez vécu en direct sur Europe 1, ce nouveau gouvernement Jean Castex avec Gérald Darmanin à l'intérieur qui vient de tweeter à l'instant, Laetitia Krupa. Hein.
Oui, je vous le disais tout à l'heure, les premières minutes dans un nouvel habit et dans un nouveau poste sont capitales. Et là, Gérald Darmanin tweet à 19h13, un tweet à mon avis qu'il avait un peu préparé. « Grand honneur pour le petit-fils d'immigré que je suis. suis d'être nommé ministre de l'Intérieur de notre beau pays. Merci à Christophe Castaner qui a mené une action courageuse, blablabla. Bon, bah, ça, c'est assez classique. Mais c'est important la façon dont il se présente au peuple.
Ouais.
Il se présente donc en petit-fils d'immigrés et au poste de ministre de l'Intérieur. C'est encore plus significatif. C'est un début assez marquant, oui, pour Gérald Darmanin. Maintenant, évidemment, on attend toujours les actes.
On continue, on a parlé à l'instant de Maître Dupond-Moretti qui devient donc ministre de la Justice ce soir. Ça, c'est une surprise. Autre surprise, le retour de Roselyne Bachelot en ministre de la Culture, Marie-Ève Malouine.
Oui, alors Roselyne Bachelot, on sait qu'elle a fait un aller-retour du côté du coup
elle
maintenant
de la télévision
et de la radio, mais en même temps elle revient, on a revu son bilan sur la gestion de la grippe A en disant que finalement elle avait fait une bonne gestion, et je trouve que c'est Dupond-Moretti qui est le plus surprenant, parce que Roselyne Bachelot c'est une politique, on fait appel à des pros de la politique, ouais. Gérald Darmanin,
elle connaît les rouages, elle a été parlementaire, elle sait très bien comment
tout ça fonctionne. Gérald Darmanin, on le met à l'intérieur, c'est pas son secteur d'origine, mais on sait qu'il a de la solidité, de l'autorité. On l'a vu sur la réforme du prélèvement à la source. C'est lui qui a dit au président de la République « Je m'engage, ça va marcher ». Et effectivement, ça va marcher. Et donc, c'est très habile. Il fait de la politique. On a vu les liens entre les policiers et les violences policières. On les accuse de racisme. Et lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il met ? Fils d'immigré. Ouais. Donc déjà, ça va être... Mmh. Il fait de la politique. Dupond-Moretti, c'est pas un avocat qui s'est fait connaître par ses positions politiques. C'est un avocat qui fait la promotion de Dupond-Moretti. C'est Acquittator. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est là, qui parle au nom des avocats. C'est plutôt une démarche plus solitaire. Et ce choix-là laisse un peu perplexe par rapport à celui de Gérald Darmanin et même de Roselyne Bachelot, qui est aussi une femme qui connaît très bien tous les rouages de la politique et qui s'intéresse beaucoup au monde de la culture, dans lequel elle a une certaine aura, puisqu'on se souvient de son vote en faveur du PACS. Elle était la seule RPR à l'époque qui avait voté en faveur du PACS.
Ouais. Michaël Darmon, donc Roselyne Bachelot, ministre de la Culture ce soir. Exit Francky Ester, qui devient secrétaire d'État au commerce extérieur. Il n'a pas vraiment fait le job, en tout cas auprès du milieu... des milieux culturels, c'était pas vraiment ça.
On ne peut pas considérer que c'était effectivement une réussite à ce poste de la culture, mais vous savez, il avait été le premier ministre de la culture, au fond, nommé pour des questions de politique intérieure. Parce qu'il fallait faire rentrer, agir au gouvernement. Et que très rapidement, on a compris qu'effectivement, c'était plutôt à l'Élysée que ça se passait, que les milieux culturels ont bien compris que ce n'était pas exactement l'homme de la situation. Là, on est dans la même logique. Il faut garder aussi une présence d'agir. Et il va au commerce extérieur, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup dans les avions.
Ouais.
Olivier Véran reste à la santé, ça c'est important bien sûr parce qu'il est le Ségur de la santé. Frédéric Vidal à la recherche, ministre de l'Agriculture de Normandie, Laetitia Crupa.
Oui, bah, c'est un poste qui est quand même très important aussi, hein. Ouais. On a tendance souvent à le laisser en second plan, c'est pas vrai. L'agriculture, c'est quand même aujourd'hui, si on pense aussi écologie, enfin voilà, il faut coordonner l'action. C'est un poste important de Normandie, on le sait, c'est un fidèle d'Emmanuel Macron, donc il reste là. Et il n'a pas démérité, hein, pas autant que Christophe Castaner, donc il a le droit à son poste de ministre. Moi, ce que je remarque dans ce nouveau gouvernement, c'est quand même, vous en parliez, Michaël Darmon, tout à l'heure, c'est l'ombre de Nicolas Sarkozy. Enfin là, il y a vraiment plus qu'une ombre. Hein. Alors la gauche, où est la gauche, hein, ouais. Le pauvre Jean-Yves Le Drian doit se sentir
c'est
bien
pour
seul.
Ça qu'il est numéro 2 du gouvernement. Voilà. Il a un rang protocolaire, mais bon, on ne voit pas non plus tous les macronistes. C'est pour ça que Julien de Normandie a de la promo. Parce que sinon, les macronistes de la première heure, ils n'ont pas des gros postes. Ceux qui restent, mais il n'y a pas de nouveau.
Il y a aussi Castaner. Castaner, c'est fini.
Bon, Castaner, c'était prévu qu'il sorte.
C'était quand même
justement, il y aura une mission, ce que l'on dit.
Voilà, c'est ce qu'on donne quand.
À l'Assemblée nationale, ce sera pour les autres remaniements.
Marlène Schiappa aussi.
Le groupe. Marlène Schiappa, qui reste quand même...
Secrétaire d'État à la citoyenneté. Bon.
Bah c'est maintenant symbolique et important. Il y aura quand même...
Oui, mais on a en même temps Marc Fesneau, qui est chargé de la participation citoyenne.
Donc, oui, donc quelque part, on fait un bouquet.
Et le petit Sylvain Attal, qui devient porte-parole du gouvernement.
Voilà, Gabriel.
Sylvain Attal,
un éminent confrère, mais Gabriel Attal, lui, en tout cas, continue sa carrière politique devient effectivement porte-parole du gouvernement, ce qui est aussi de manière de continuer avec un macroniste premier cercle. Et c'est vrai que sur le plan de la gauche, on peut quand même noter Florence Parly, qui était au cabinet de Lionel Jospin en s'occupant des questions budgétaires, donc qui vient aussi de la gauche.
Et bien voilà pour la
l'analyse de ce nouveau gouvernement. Merci à vous. Merci Marie-Ève Malouine. Merci, merci Laetitia Krupa. Et merci, merci à Mickaël Darmon.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec tout de suite le rappel des titres de l'information ce soir, Sébastien Krebs.
Et ce titre unique, cette composition du gouvernement Castex annoncée il y a une demi-heure sur le perron de l'Elysée. Gérald Darmanin, nommé ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner sort du gouvernement, tout comme Nicole Belloubet qui est remplacée à la justice par l'avocat Éric Dupond-Moretti. La transition écologique est confiée à Barbara Pompili et Roselyne Bachelot est nommée à la culture. Franck Riester va prendre en charge le commerce extérieur. Certains poids lourds sont maintenus à leur poste. Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, Jean-Michel Blanquer à l'éducation, Bruno Le Maire à l'économie, il sera en charge aussi de la relance, Florence Parly aux armées, Olivier Véran à la santé, Frédéric Vidal pour l'enseignement supérieur et Jean-Baptiste Djebbari au transport. D'autres changent de portefeuille. Elisabeth Borne va prendre en charge le travail, Julien Denormandie l'agriculture, Sébastien Lecornu l'outre-mer, Amélie de Montchalin la fonction publique et puis Marlène Schiappa sera chargée de la citoyenneté aux côtés du ministre de l'Intérieur. Enfin, Gabriel Attal devient le porte-parole du gouvernement et succède donc à Sibeth Ndiaye qui n'apparaît pas dans cette liste de 30 noms ministres et ministres délégués dévoilés aujourd'hui. Le premier conseil des ministres est avancé à demain 15h à l'Elysée.
C'est complet, merci beaucoup Sébastien Krebs.
Europe 1.
Votre grand journal du soir en édition spéciale jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous Thierry Dagiral, avec vos invités, les spécialistes de la rédaction d'Europe 1. Une édition spéciale suite à l'annonce du nouveau gouvernement Jean Castex.
Exactement, gouvernement que l'on a connu juste après 19h en direct sur Europe 1. Toute la rédaction reste mobilisée ce soir pour vous informer, pour analyser, pour décrypter. Je vais tout de suite contacter Chloé Triomphe. Chloé Triomphe, vous êtes avec nous ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Chloé. C'est la surprise, hein, la surprise du soir. Maître Dupond-Moretti, ministre de la Justice.
Et oui, c'est effectivement une grosse surprise, au moins dans l'univers feutré de la magistrature. Éric Dupond-Moretti, vous savez, c'est un des plus grands avocats pénalistes de France. Il a 59 ans, il a été surnommé acquittateur. Vous vous souvenez, parmi les dossiers qu'il a pu plaider, il y avait, je vous en citais pêle-mêle comme ça, Outreau, Yvan Colonna, plus récemment Abdelkader Merah, mais aussi Benzema, Georges Tron. Il défend les intérêts de Théo, une des victimes de violences policières, mais aussi en matière politico-financière, il a défendu Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany. Voilà, puis c'est une personnalité qui est, on peut dire, c'est un euphémisme de dire ça, qui ne laisse pas vraiment indifférent à une personnalité assez tonitruante, pardon. Et je vous passe les rapports assez compliqués avec la magistrature. Il avait par exemple demandé à corps et à cri la suppression de l'ENM, l'École Nationale de la Magistrature. Ouais. C'est vous dire si là, ce soir, les SMS entre magistrats, enfin tout ce qui s'échange dans ce milieu-là sont assez sidérés, en tout cas très très étonnés par ce choix. Éric Dupond-Moretti, c'est aussi un homme qui a été surnommé acquittateur. Et puis, il est effectivement très, très attaché à la présomption d'innocence. Donc, les relations, ce n'est pas un homme, on va dire, de pouvoir. Ce n'est pas un homme qui fréquente les cercles gouvernementaux. Donc, c'est effectivement une surprise. Et on va voir ce que ça peut donner comme relation avec l'univers feutré de la magistrature.
Merci, merci infiniment, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Justement, je voudrais vous faire réagir. Katia Dubrévic, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Comment vous réagissez ce soir ?
Bah écoutez, j'entendais ce qui était dit juste avant sur l'univers feutré de la magistrature. Je crois que ce n'est pas tellement la question. La question, c'est que la justice a besoin pour fonctionner de sérénité, notamment dans les relations entre avocats et magistrats qui, actuellement, sont un peu, il faut le dire, obérés. Et donc, ça peut être surprenant de choisir pour être garde des Sceaux un avocat qui a été très critique et qui a eu des propos très critiques encore très récemment, donc c'est frais, hein, sur les magistrats, qui a effectivement eu des propos très critiques sur l'ENM. Donc la question est, est-ce qu'on va pouvoir avancer ensemble, parce que le problème n'est pas évidemment qu'on nomme un avocat garde des Sceaux. C'est très bien, mais un avocat garde des Sceaux, et au contraire, on peut aussi espérer des avancées sur le plan des libertés fondamentales, sur le plan du rôle de la justice comme gardienne des libertés.
Katia Dubreuil, je voudrais juste vous faire réagir à ce tweet un instant de Marine Le Pen, qui vient d'écrire « La justice est nommée un militant d'extrême gauche qui souhaite l'interdiction du Rassemblement national, premier parti d'opposition. » Ça promet votre réaction ?
Écoutez, franchement, je crois qu'il faut arrêter de partir sur des interprétations qui ne reposent sur aucun fait, en réalité. Hein. Ce sont des opinions qui sont exprimées et qui, à mon sens, ne reposent pas sur grand-chose de tangible.
Katia Dubreuil, votre réaction en direct sur Europe 1, la présidente du syndicat de la magistrature. Merci infiniment. Salomé Legrand, du service police-justice, est avec nous. Bonsoir Salomé.
Bonsoir.
C'est l'autre surprise, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et le départ du proche, du très proche Castaner, proche d'Emmanuel Macron.
Eh oui, c'était parmi ceux qui avaient fait partie de l'aventure En Marche dès le début. Christophe Castaner, pour autant, était arrivé au bout d'un cycle. Il était déjà plusieurs fois sur la sellette depuis un an et demi, critiqué pour sa gestion houleuse des manifestations de Gilets jaunes à Paris, souvent critiqué pour avoir parlé trop vite. On s'en souvient, après l'intrusion de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'il avait qualifié à tort d'attaque, ou après l'attentat au sein même de la préfecture de police de Paris. Récemment encore, l'expression maladroite sur les soupçons avérés de racisme, son rétropédalage sur la clé d'étranglement ou sa curieuse phrase sur les manifestations contre les violences policières tolérées malgré la crise sanitaire, je cite avec cette excuse, l'émotion dépasse les règles juridiques. De quoi sceller la rupture avec les syndicats de police qui demandaient ces dernières semaines à être reçus directement à l'Élysée. Rupture avec les policiers tout court, hein, dont certains ont continué à organiser de brefs rassemblements symboliques ces dernières semaines. C'est donc Gérald Darmanin qui devient le 9e ministre de l'Intérieur en 10 ans, le 3e du quinquennat, avec une crise aigu à gérer côté policiers qui réclament des moyens, clament leur mal-être et demandent surtout de la reconnaissance. Sur la table donc la réforme de l'IGPN, le livre blanc sur la sécurité intérieure qui se fait attendre depuis des mois et plus dur encore sans doute, retisser le lien entre la police et la population.
Voilà, Gérald Darmanin donc nommé ce soir ministre de l'Intérieur. Merci à vous. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Dans un instant, la réaction des syndicats de police. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 en édition spéciale jusqu'à 20h avec vous Thierry Dagiral, avec vos invités, avec la rédaction d'Europe 1 et les réactions des auditeurs d'Europe 1 au 39-21 et sur Twitter hashtag Europe 1 suite à l'annonce de ce nouveau gouvernement.
Voilà, gouvernement annoncé il y a maintenant une 25-30, une demi-heure, gouvernement que vous avez pu connaître en direct sur l'antenne d'Europe 1. Et puis maintenant, on analyse, on essaye de faire le portrait de tous ces nouveaux ministres. Ministre de l'Intérieur ce soir, Gérald Darmanin. La réaction tout de suite d'Yves Lefebvre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de Unité SGP Police FO. Gérald Darmanin, place Beauvau, réaction.
Bienvenue.
Et bon courage.
Bienvenue. Et bon courage, voilà. Mais qui compte surtout pas sur moi, et d'ailleurs, ça aurait été le cas pour n'importe quel nouveau ministre de l'Intérieur, qui compte pas sur moi pour un état de grâce et une période de transition. Il y a des dossiers en attente. Je dirais que Gérald Darmanin connaît toutes les ficelles pour faire débloquer la bourse des comptes publics et nous permettra enfin d'atteindre les objectifs et de répondre à la colère des policiers, à savoir l'indemnité du travailleur de nuit, réformer les voies d'avancement, permettre aux officiers de police judiciaire de ne plus être des smicards à la fois à la solde de la justice et de la police nationale. Vous voyez, il y a beaucoup de dossiers, donc à Gérald Darmanin maintenant, de savoir user à bon escient pour les policiers, parce qu'il est, depuis quelques instants, réputé le premier flic de France, de savoir répondre aux attentes des policiers, mais qui ne croit pas à son instant que son arrivée à Beauvau va faire calmer la colère des policiers, très loin s'en fout.
Mais il a été maire de Tourcoing, il connaît le terrain parfaitement bien. Ça, c'est un plus ?
C'est un plus, oui, c'est un plus. Mais oui, effectivement, quand il a été maire de Tourcoing, il a été
avec des communautés,
un soutien
important, intéressant pour permettre aux policiers de sa commune, de sa circonscription, d'avoir des horaires en adéquation avec la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Donc j'espère que Gérald Darmanin aura la mémoire nécessaire en la matière.
Dites-moi, quand Jean Castex, ses premiers mots sur TF1, prononce « Mes valeurs sont celles de l'autorité, de la laïcité, de la République », ça va dans le bon sens pour vous ? Ce sont des mots que vous aviez envie d'entendre ?
Oui, oui, ce sont des mots qui vont dans le bon sens. D'ailleurs, la visite de Jean Castex, hier au soir au commissariat de la Courneuve, tout ça, ça a un sens. Mais au-delà du sens de la visite, au-delà du sens que peuvent avoir les mots, maintenant, ce sont les actes qui devront avoir un sens. Il faut réconcilier la police avec le gouvernement et en même temps permettre à la police et à la population de se réconcilier. Donc le travail est gigantesque. C'est d'ailleurs pour ça que Gérald Darmanin doit impérativement nous recevoir dans les plus brefs délais, qu'il ne recommette pas les erreurs parfois commises par certains de ses prédécesseurs. Vous savez, on en a eu un paquet de ministres ces derniers temps. Donc certains sont aussi vite arrivés qu'ils sont partis, d'ailleurs au demeurant, mais espérons que lui, Gérald Darmanin, sera véritablement appréhendé. Le syndicalisme policier, on apparaît souvent comme des empêcheurs de tourner en rond, mais c'est vrai, on l'assume pleinement. On a une force, on a une puissance, 90% de participation aux élections professionnelles, c'est pas rien, ça pèse dans l'escarcelle de la mariée, excusez-moi la métaphore, mais pour ça, il va falloir effectivement qu'ils prennent de la température très vite auprès des organisations syndicales. Ouais.
Et en tout cas, vous l'avez dit, il n'y aura pas d'état de grâce. Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP Police FO, merci à vous.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci. Virginie Salmen nous a rejoint sur Europe 1 Studio. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Vous connaissez bien les questions d'écologie. Barbara Pompili, nouvelle ministre de l'écologie, numéro 2 du gouvernement. Ça, c'est un signe fort. Hein.
Oui, c'est la deuxième qui a été citée par ordre d'importance dans ce gouvernement. Alors, Barbara Pompili, c'est une écologiste Macron compatible. Elle a fait toute sa carrière chez Les Verts, puis Europe Écologie Les Verts depuis 2000. Et depuis 2017, elle a rejoint donc La République En Marche. Donc, c'est vraiment... Enfin, on le voit d'abord par son ralliement et puis par ses prises de position. Par exemple, elle a été contre les orientations décroissantes et antilibérales chez les écologistes. Et puis, en 2019, alors, ça, c'est une question qui va peut-être interroger. Elle s'est abstenue lors de la ratification du CETA, le traité de libre-échange. Donc voilà sa position à la fois compatible avec La République En Marche et une écologiste engagée de longue date. Elle succède donc à Nicolas Hulot, puis Elisabeth Borne, qui a certes été directrice de cabinet de Ségolène Royal, mais qui concédait elle-même qu'elle découvrait beaucoup de choses au fil des dossiers qu'elle traitait. Elle n'était pas du tout écologiste dans l'âme depuis longtemps comme l'est Barbara Pompili. Barbara Pompili qui est actuellement la présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée, donc une des femmes écologistes qui compte en France et qui a notamment qui a été à l'origine de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires en France, mais qui a aussi fait adopter la loi pour la reconquête de la biodiversité. Donc elle a une carrière politique qui est vraiment vraiment marquée par toutes ces questions d'écologie.
Merci beaucoup Virginie Salmen du service Société d'Europe. Michael Darmon, vous êtes encore avec nous, merci à vous. Allez, une réflexion sur la structure globale de ce nouveau gouvernement.
Tout d'abord, pour prolonger ce que vient de dire Virginie Salmen...
Sur l'écologie et sur la nomination...
Elle a aussi un sens stratégique assez poussé, puisqu'elle a quand même été dans les tractations et même pratiquement dans l'organisation de ce nouveau groupe parlementaire qui a quitté donc La République En Marche, qui s'appelle maintenant Écologie, Démocratie, Solidarité. Ouais. Et au dernier moment, elle s'est retirée en disant « je ne le rejoins pas ». Et là, on avait déjà compris en coulisses qu'il y avait peut-être quelques engagements la concernant dans l'avenir, dont acte. Donc on peut imaginer que, bien évidemment, elle, au-delà de ses engagements politiques, elle sait aussi ménager son propre avenir, c'est de la politique. D'une manière plus générale, on a comme le sentiment que Emmanuel Macron veut clore le chapitre des amateurs. En disant maintenant, il faut
des gens qui connaissent les coulisses de l'État, le
métier de la politique, qui connaissent leur dossier et qui surtout peuvent reconstruire, retisser le lien avec, la société, ce dont Emmanuel Macron a absolument besoin. Les visages connus, Gérald Darmanin bien sûr à l'intérieur, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, ça ne passe de commentaires. Bien évidemment, ce sont des gens qui, dès qu'ils vont se déplacer, vont générer de l'attention au-delà même de l'intérêt qu'ils vont susciter pour leur propre dossier, parce que ce sont des gens connus, vus à la télévision, des célébrités.
Et justement, il y a ce côté un peu trop vu à la télévision.
Mais
ça
on
peut
est
pas
dans
être
une évolution. Alors, avant de peut-être de juger, on va quand même aussi se dire, est-ce qu'on n'est pas dans une évolution contemporaine? Est-ce qu'au fond, la notoriété médiatique ne participe pas être... maintenant de l'adhésion, j'entends, de la capacité de pouvoir faire passer un message.
Ah oui.
C'est une question qui est posée aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'hypermédiatisation, à l'ère où chacun est un média, chacun d'entre nous. On poste des vidéos, on poste des photos, on écrit des blogs. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi peut-être une mutation contemporaine que l'on retrouve, qui se cristallise à travers quelques personnalités de ce gouvernement. Et effectivement, on voit bien que la génération de l'ego portrait, de certaine manière, est aussi présente dans ce gouvernement et dans le message que va envoyer aussi le président de la République à la société.
Il y a des piliers qui n'ont pas bougé, hein. Je pense à Le Drian aux affaires étrangères, Parly, Florence Parly, dont on parlait éventuellement d'elle pour Matignon aux armées, Bruno Le Maire à l'économie, aux finances et à la relance, ça ne bouge pas, tout comme d'ailleurs également, bien sûr, Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale.
Oui, bah alors, par exemple, Bruno Le Maire, il évolue sans bouger, puisqu'il récupère la relance. Donc effectivement, il est dans une logique de quasi-vice-premier ministre, quand même, hein, parce que c'est quand même très important. Ce qui va se passer, on va beaucoup se tourner vers lui, notamment à la rentrée, lorsque le plan de relance va arriver, lorsque le débat sur le budget sera donc posé. D'ailleurs, il sera assisté de ce point de vue-là d'Amélie de Montchalin, qui a été la coordinatrice à la commission des finances.
Donc à la fonction publique. Hein.
Également donc, quelqu'un qui effectivement connaît très bien les arcanes budgétaires et parlementaires. Ce sera donc un temps très important pour eux. Jean-Yves Le Drian, vous l'avez dit, on lui a proposé, mais Macron, dès vendredi soir, lui propose la place Beauvau, il refuse. Et ensuite, finalement, il reste au Quai d'Orsay. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelques piliers qui ne changent pas.
Allez, restez avec nous, on continue à décrypter, notamment le social avec Olivier Samain dans un instant, juste après ça.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Thierry Dagiral. Une édition spéciale suite à l'annonce du nouveau gouvernement Jean Castex. Vous êtes nombreux à réagir au 39-21 sur Twitter, hashtag Europe 1, et bien sûr toute la rédaction d'Europe 1 et vos invités.
Voilà, retenez bien ce nom, Anissa. Jean Castex, redites-le.
Jean Castex.
Parfait. Au téléphone avec nous, Alain Colombel, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Nouvelle ministre de l'écologie ce soir, Barbara Pompili, votre réaction, c'est une bonne chose. Numéro 2 du gouvernement, hein.
Oui, écoutez, Barbara Pompili, on la connaît bien, puisqu'elle était il y a quelques années à Europe Écologie Les Verts.
Exactement.
Elle connaît effectivement très bien tous les dossiers qui concernent l'écologie. Reste que c'est la ligne globale du gouvernement qui importe. Mmh. Effectivement, je me souviens que Nicolas Hulot, je crois, avait été désigné numéro 1 derrière le Premier ministre il y a quelques temps, et on a vu ensuite Nicolas Hulot, au bout d'un an, être forcé de quitter le gouvernement. Donc, c'est la connotation générale, c'est la ligne globale du gouvernement qui importe.
Qu'importe le rang, qu'importe le titre, c'est d'avoir les mains libres pour pouvoir faire bouger les dossiers, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire.
Évidemment, on souhaite toute la réussite à Barbara Pompili, mais on est tout à fait, conscient des difficultés qu'elle va rencontrer à l'intérieur d'un gouvernement qui est de manière très claire, orienté à droite, avec des ministres très importants qui restent à leur fonction. Hein. Je pense évidemment au ministre de l'économie qui reste à sa place. Ouais. À l'intérieur, on a maintenant Gérard Darmanin, etc. Donc on a un gouvernement qui est très, très, très clairement orienté à droite, avec un Premier ministre qui vient également de LR. Donc peu de chances, malheureusement, pour que les enjeux écologistes soient pleinement évoqués ou pris en compte par ce gouvernement.
Merci, merci. La réaction d'Alain Colombel, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, ce soir sur Europe 1. Olivier Samain, du service économie d'Europe 1, nous a rejoint. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Thierry.
On va s'intéresser à, d'abord, Olivier Véran. Olivier Véran, ministre de la Santé, qui reste à son poste.
Et qui garde exactement le périmètre qu'il avait jusque-là, Olivier Véran.
Olivier Véran.
Qui garde à la fois les solidarités et la santé. Et dans les solidarités, il y a en particulier tout le domaine de la protection sociale et les retraites. Ouais. Et ça, c'est très important, puisque Olivier Véran réclamait le maintien de sa responsabilité sur ce secteur. Il était très impliqué avant d'entrer au gouvernement dans la préparation du projet de loi de réforme sur les retraites. Et il a réussi à garder ce domaine-là.
et lui et sa main, Elisabeth Borne, nouvelle ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion également.
Alors Elisabeth Borne, c'est une femme qui remplace une autre femme, Muriel Pénicaud, qui quitte la rue de Grenelle. Muriel Pénicaud s'en va, on peut interpréter ça comme le fait que Muriel Pénicaud incarnait le début du quinquennat avec les ordonnances de libéralisation du Code du Travail. Là, Elisabeth Borne, elle va devoir incarner sans doute autre chose. Elle va devoir incarner le combat face à l'explosion attendue du chômage. On l'attend aussi beaucoup sur la réforme de l'assurance chômage qui va devoir être traitée. Vous savez que cette réforme, elle avait été engagée par Édouard Philippe avec Muriel Pénicaud. Mais Emmanuel Macron avait décidé d'en repousser l'application, en tout cas pour la deuxième phase. Et que va-t-il advenir de cette deuxième phase qui est très contestée par les syndicats qui ne veulent pas que cette deuxième étape de la réforme de l'assurance chômage soit confirmée. On verra ça assez rapidement à la rentrée.
Merci Olivier Samin. Yves Verrier est avec nous au téléphone, le patron de Force Ouvrière. Bonsoir Monsieur Verrier.
Bonsoir.
Votre réaction ce soir sur Europe 1. Vous voulez entendre Olivier Samin ? Nouvelle structure gouvernementale.
Je ne sais pas si il faut voir dans la nomination de Madame Borne au travail en remplacement de Madame Pénicaud un signal particulier. L'assurance chômage, effectivement, la réforme que le gouvernement a imposée contre l'ensemble des syndicats, hein, il faut s'en souvenir, en juin de l'année dernière, a montré avec la crise sanitaire de manière plus forte et plus rapide les raisons qui étaient les nôtres de dénoncer cette réforme. Elle a affaibli les droits des demandeurs d'emploi alors que le nombre de demandeurs d'emploi a explosé, notamment les plus précaires. Donc voilà, est-ce que c'est le signal qu'on va revenir effectivement sur cette réforme, l'abandonner et revenir par contre à la convention qui avait été négociée en 2017 et qui aurait était toujours en vigueur aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas oublier que cette convention, qui a été remise en cause l'année dernière par le gouvernement, négociée par les syndicats, devrait toujours être en vigueur et elle aurait évité un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées. Donc, est-ce que c'est ce signal-là ? On va voir. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais demander à Mme Borne très vite.
Merci, merci. La première réaction d'Yves Verrier ce soir sur l'antenne d'Europe 1, le patron de Force Ouvrière. Merci à vous. Mickaël Darmon, un tout dernier mot avant de conclure.
On voit bien qu'avec ce gouvernement, vous savez, les ingrédients d'un remaniement, hein, c'est-à-dire à la fois il faut mélanger la proximité sociale, géographique, politique, paritaire, à tenter d'être mise en place. On voit bien qu'il y a cette volonté de reconstruire une équipe qui va aller porter une nouvelle, on va dire, énergie pour un président de la République qui a besoin d'être en reconquête avec l'opinion. On note qu'effectivement Jean-Yves Le Drian, qui était une hypothèse pour être le Premier ministre, eh bien, devient finalement le premier des ministres, puisqu'il est le premier dans l'ordre protocolaire, et que de ce point de vue-là, eh bien, on verra comment cette équipe sera complétée par des secrétaires d'État après le discours des politiques générales qui aura lieu après l'intervention du président le 14 juillet.
Le 14 juillet. Merci infiniment, Mickaël Darmon. Merci à l'ensemble de la rédaction de nous avoir fait vivre ce soir ce remaniement en direct sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.